Par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saï au micro de Canal M pour vous présenter C'est par actualité du 4 mai 2017 avec aujourd'hui en titre « Son chien Mira victime d'un délit de fuite » et « Courir 5 km à l'aveugle à la salle ». Également aujourd'hui, les jardins du Méandre ouvriront leurs serres le samedi 20 mai et la ministre Lucie Charlebois réexaminera le cas de la maison Jean-Eudes de Bergeron à Alma. Aussi, à Moncton, étudiants à besoins spéciaux, l'université de Moncton est passée de 15 à 250 inscriptions et évidemment, ça coûte cher. Et puis, international, Emmanuel Macron, en France, dit vouloir faire du handicap l'une des priorités de son quinquennat. Deux entrevues également aujourd'hui, d'abord avec Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul, au sujet de Victoriaville, première municipalité certifiée destination pour tous par Kéroul. Et puis également avec Lucie Boudreau, présidente de la communauté Morquio du Québec. Nous en saurons un peu plus sur l'évolution de cette maladie de Morquio et surtout sur le médicament, le Vimizim et son coût. Alors, une jeune femme tétraplégique et son chien d'assistance, Mira, ont été victimes d'un délit de fuite samedi dernier dans l'arrondissement Rosemont, la petite patrie à Montréal. L'animal a été grièvement blessé à une patte dans l'accident. Je roulais sur une piste cyclable pour aller prendre le métro Rosemont qui est accessible aux personnes handicapées quand un chauffard est passé vite et il a accroché mon chien d'assistance de la Fondation Mira, a expliqué Ingrid Carré à Denis Lévesque. Lorsque Madame Gingras est arrivée sur les lieux de l'accident, elle a découvert la chienne de 4 ans encore à terre et sa fille désemparée de l'autre côté de la rue. La chienne Tiga a été prise en charge par une ambulance et conduite à l'hôpital vétérinaire de la Chine. Selon Madame Carré, le premier vétérinaire voulait amputer la phalange blessée, mais il a décidé de prendre contact avec la Fondation Mira avant tout. Elle a donc décidé, et Mira a décidé de ne pas l'amputer et d'essayer de la soigner. Alors elle dit que pendant ce temps-là, elle n'a pas d'aide. Elle a décidé d'aller chercher cette aide auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, malheureusement sans succès. « Je suis passée, écrit la maman, devant 6 personnes différentes pour me faire dire qu'ils n'assurent pas ce genre d'accident. Si j'avais été blessée, ils m'auraient assurée, mais pour mon chien d'assurance, il n'y aura pas d'assurance », dit toujours la maman d'Ingrid, fâchée par cette situation. Le chien pourrait être compris comme un de ses membres de la famille. Cette aide changerait les choses, car on ne sait pas si Mira va laisser le chien à Ingrid ou s'il va falloir qu'il l'envoie dans une famille pour sa retraite à avancer. Louise Gingras, cette dernière aimerait que la SAAQ revoie sa politique, pas uniquement pour sa fille, mais pour toute personne handicapée qui se trouverait dans cette situation. Ingrid, elle, veut retrouver sa Tiga au plus vite pour l'aider dans sa vie de tous les jours. Elle est importante autant pour son autonomie que pour le côté psychologique. Le messager de La Salle nous fait savoir qu'il va y avoir prochainement un 5 km qui pourra être couru par certains à l'aveugle. Peu de gens sont capables de courir un marathon ou une longue distance. Alors imaginez cette épreuve sans voir où vous mettez les pieds. Eh bien c'est pourtant ce que tenteront Myriam Cyr et une poignée d'autres coureurs en juin dans le cadre d'un événement sportif qui se tient à La Salle. Aidée d'un guide, la femme qui pratique la course à pied depuis 3 ans franchira une distance de 5 km à travers les rues de La Salle le 11 juin dans le cadre du 3e défi des MLA. La course sert à récolter des fonds pour la recherche sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA donc. Cette maladie est l'une des causes les plus répandues de malvoyance chez les personnes de 60 ans et plus. Sur 700 participants inscrits, 6 ont choisi de tenter l'expérience à l'aveugle. Pierre Brisebois est l'homme derrière le défi des MLA. Dès l'âge de 49 ans, il a su qu'il était atteint de cette maladie. En plus d'amasser des fonds pour la recherche, l'homme, âgé de 54 ans et père de 2 filles, veut surtout faire connaître la maladie, mais aussi les dommages importants qu'elle peut causer. Myriam Cyr ne connaissait pas Pierre Brisebois avant de s'inscrire à l'activité sportive. De savoir que cet homme vit en sachant qu'il perdra la vue prochainement, ça m'a motivée à vivre l'expérience au complet, confie la femme de 41 ans. Chaque athlète recevra à la fin de sa course une médaille remise des mains d'une personne souffrant de la maladie. Victoriaville est la première municipalité certifiée destination pour tous par Kerrul. On vous avoue qu'ici, à Canal M et à l'émission Les Paractualités, on n'est pas vraiment surpris parce qu'on entend toujours de très très bons commentaires sur cette ville-là et j'entends un petit rire de l'autre côté. C'est le rire de la présidente de Kerrul, Isabelle Ducharme. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors voilà donc Victoriaville, élue première municipalité certifiée destination pour tous par Kerrul. Alors, pourquoi, hein? Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette ville de... D'abord, qu'est-ce qu'une municipalité certifiée? Et puis, pourquoi?
Mais d'abord, il faut comprendre d'où vient l'idée d'une certification destination pour tous. Puisque on entend souvent parler d'accessibilité universelle, on entend parler de l'importance de rendre les choses accessibles, autant dans l'infrastructure que dans les services. Mais souvent, on travaille chacun pour soi dans son propre domaine, que ce soit en intégration au travail, en loisirs, etc. Alors, le concept de destination pour tous, il se veut justement ouvert à tous. Donc, on ne parle plus seulement du touriste qui veut venir dans une destination, mais on parle aussi du confort pour le citoyen local. On parle d'une façon de pouvoir se déplacer dans un environnement spécifique, mais où on n'aura pas à se demander, oui, je vais avoir accès au restaurant, mais est-ce que la pharmacie va être accessible? Je vais pouvoir prendre le transport, mais est-ce que je vais avoir un hébergement accessible, etc. Donc, le concept en soi veut qu'on arrête de poser des questions. On le sait maintenant, même à Montréal, qui est quand même une ville bien développée, si je veux aller manger au restaurant avec vous après l'émission aujourd'hui, ben je vais devoir appeler avant parce qu'il n'y a pas de garantie sur l'accessibilité. Et souvent, je vais devoir poser une question de plus. Pas juste « êtes-vous accessible, mais comment? » Et oui, je peux entrer dans votre restaurant, mais est-ce que la toilette est, est également accessible? Donc, d'où l'idée du destination pour tous. Il faut aussi comprendre que Victoriaville a participé au développement de cette certification-là.
Ah, donc, c'est ça, hein?
Ils ne sont pas seulement la cible visée comme premier projet pilote, mais aussi, ils sont aussi des grands collaborateurs.
Oui.
D'entrée de jeu, elle est reconnue comme une ville qui est très proactive au niveau de l'accessibilité. Elle a sa propre charte d'accessibilité universelle et on entend, vous, moi et sûrement beaucoup d'autres gens, régulièrement des nouvelles choses qu'ils font pour se rendre plus accessible.
Absolument.
À tous.
Et je peux même vous dire, et c'est une petite parenthèse, mais j'ai voyagé récemment avec des gens de Victo, comme on dit, et eux-mêmes sont parfaitement au courant de cette situation-là, et ils en sont très fiers, d'ailleurs.
Et avec raison. Avec raison, parce que souvent, on doit plus convaincre les gens des bienfaits ou du besoin, alors qu'eux vont de l'avant.
Bien sûr.
Il y a de la consultation avec les citoyens, il y a de la consultation avec les gens qui vont travailler justement au développement de l'accessibilité. Donc, c'est encore un bel exemple là, de communauté qui se rassemble et qui travaille ensemble vers un objectif commun.
Et qui prouve que c'est faisable.
Oui, et qu'il y a une bonne raison de le faire.
C'est ça, exactement. Quels sont les avantages pour une municipalité de faire tout ça?
Bien, en fait, la première des choses, je vous dirais que ça leur apporte nécessairement un meilleur milieu de vie pour les gens de la place.
Bien sûr, ça c'est clair.
Pour moi, c'est pas nécessairement tout le temps la première chose qui est mise de l'avant quand on en parle, mais pour moi, en pensant aux gens qui vivent là et qui vont visiter, c'est la première chose. Sinon, mais en ayant, en faisant les démarches pour cette certification-là, bien sûr, il y a un soutien personnalisé pour améliorer l'accessibilité de l'endroit. Il y a automatiquement aussi une promotion qui fera rayonner la municipalité.
Donc, la preuve, on en parle beaucoup.
Oui, voilà. Donc, par les canaux de Kérol, bien sûr, parce qu'on en fera une promotion particulière, on le mettra dans toutes nos publications, etc. Mais aussi, comme aujourd'hui, on peut le voir, on va en parler dans les médias, on va en parler donc dans d'autres, dans l'ensemble des sphères de communication. Et ce n'est pas, comme dans plusieurs cas, seulement dans les canaux de communication dédiés aux personnes en situation de handicap, mais dans la société en général, je croirais bien, avec le temps. Et donc, c'est de faire partie aussi d'un réseau de municipalités. Ils vont pouvoir se parler entre eux. Ah bien, moi, j'aimerais avoir les 5 étoiles, parce qu'on oui. comprend que pour atteindre les 5 étoiles, c'est énorme. Mais peut-être qu'entre communautés qui travaillent vers ce même but, mais on pourra s'encourager et se donner des
cues, excusez-moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais je veux dire des noms, mais attendez, il faut quand même que j'en trouve un autre, mais on va se donner quelques,
voyons. Oui, des pistes de solutions.
Des pistes de solutions, je vous remercie, des conseils et des recommandations et des voilà,
donc,
entre autres.
Donc, dans le concept de destination pour tous, mais oui, il y a l'ensemble des services et des infrastructures qui peuvent permettre une accessibilité pour tous. Et dans le pour tous, ben oui, on inclut les personnes, bien sûr, à la base de tout ça. Il y a les personnes avec une déficience motrice. Et ça inclut aussi donc le vieillissement de la population. Mais donc, pas seulement, souvent, quand on dit déficience motrice, les gens pensent au fauteuil roulant, mais ça inclut les gens qui se déplacent avec une canne, avec un déambulateur,
bien sûr.
Les gens en perte d'autonomie, et bien sûr, toute personne là, qui aurait des besoins spéciaux, donc des personnes avec une déficience visuelle, auditive, la maman qui se déplace avec une poussette. Beaucoup plus large. Là. Ce n'est plus juste pour les personnes avec une déficience motrice, mais vraiment pour l'ensemble de la population.
Et dites-moi, Isabelle Ducharme, quelles sont les étapes à franchir pour obtenir une certification pour les municipalités?
Bien, les étapes sont quand même assez simples, moi, je trouve. En tout cas, sont quand même assez claires. Donc, la première chose, c'est qu'il faut remplir un formulaire de base là, qui dit ben moi je suis intéressée. Ensuite, il faut s'assurer que.
Qui envoie ils ont accès comment à ce formulaire?
C'est les municipalités.
Les municipalités.
Donc, le maire de Victoriaville remplit un formulaire, dit ou quelqu'un de son équipe là, dit nous, on est intéressés à devenir une municipalité qui est certifiée.
OK, mais il vient d'où le formulaire?
Vous pouvez aller directement sur le site web de Kérol dans la section.
Ah, c'est ça. Donc c'est vraiment vous, qui avez lancé ça complètement. OK,
oui,
ça marche.
Absolument. Donc,
d'accord.
On va sur kérol.qc.ca dans la section services aux entreprises.
D'accord.
Et vous avez l'onglet.
D'accord.
Et par la suite, c'est bien d'avoir cet engagement-là. Mais pour être sûr qu'on peut passer à la prochaine étape, il faut absolument avoir. Tâter le pouls des gens de la municipalité, des entreprises, des commerces, etc., pour s'assurer que, oui, il y a une volonté en haut, mais qu'il y a aussi une volonté sur le terrain.
Oui, je comprends.
Parce qu'il faut les rendre accessibles, les lieux qui ne sont pas déjà accessibles. Et par la suite, on fait plus là des évaluations, des portraits de l'accessibilité dans les lieux.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Il y aura une certification, donc une cote. Ça peut être de 1 à 5 étoiles.
D'accord.
Et éventuellement, si on est à 3 étoiles, les prochaines étapes seront de voir comment on peut améliorer et s'assurer qu'on passe à la prochaine étape, à la 4e ou à la 5e étoile.
Eh bien, bravo à Kérol, mais aussi bravo à Victoriaville. Et puis, espérons que ça fasse des petits, tout ça.
Absolument. Hein?
Alors donc, je rappelle le nom de votre site. Alors, www.kérol, ça s'écrit K-E-R-O-U-L, pour si des fois quelqu'un ne le savait pas, .qc.ca. Et j'accueillais, quand je m'entretenais au téléphone, avec Isabelle Ducharme, sa présidente. Merci Isabelle, au plaisir.
Merci beaucoup.
À bientôt, bye.
Au revoir.
Information régionale, l'équipe des Jardins du Méandre de l'Assomption vous attend le 20 mai prochain. Les Jardins du Méandre ouvriront leurs serres le samedi 20 mai de 13h à 16h pour ceux désirant se procurer des plantes annuelles et des vivaces préparées par les participants et l'équipe. Il sera possible aussi d'échanger sur des sujets tels que l'horticulture et la permaculture avec les artisans sur place. Ce sera aussi l'occasion de découvrir un véritable milieu de vie, de visiter les jardins et les animaux. Rappelons que les Jardins du Méandre a pour but de créer, soutenir et promouvoir un milieu de vie adapté, des activités éducatives et récréatives pour une clientèle présentant principalement un trouble du spectre autistique, tout autre handicap d'ailleurs ou difficulté mentale et leur famille. Les jardins sont situés au 3021 boulevard L'Ange Gardien Nord à l'Assomption. Les départs des visites animées du site seront à 13h30 et à 14h30. Activité annulée en cas de pluie. Pour information et pour confirmer votre présence, 450 938 15 46. Et puis, la ministre Lucie Charlebois réexaminera le cas de la maison Jean-Eudes de Bergeron d'Alma. Elle promet d'examiner la situation financière de cette maison à Alma qui est menacée de fermeture en juillet. Elle a rencontré Mme Charlebois à la direction du centre d'hébergement pour personnes handicapées mardi pour vérifier si l'établissement est bien sous-financé comme le prétendent les responsables. La ministre s'est d'ailleurs défendue d'avoir critiqué la gestion de la maison Jean-Eudes de Bergeron. Je n'ai pas dit des problèmes d'administration. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont fait des choix qui ont des conséquences. A précisé la ministre. Elle a fait référence aux choix budgétaires faits par l'administration. Le conseiller Gilles Girard a expliqué que les élus ne perdaient pas espoir. On est confiant et on espère qu'il va y avoir un revirement dans cette situation qui va permettre de maintenir cette maison ouverte pour au moins une année, le temps qu'on évalue correctement la clientèle qu'on y retrouve, a-t-il mentionné. J'accueille maintenant par téléphone Lucie Boudreau, présidente de la communauté Morquio du Québec. Bonjour, Madame Boudreau.
Bonjour.
Alors, nous allons nous entretenir ensemble aujourd'hui pour parler d'une part de la maladie de Morquio, parce que peut-être que beaucoup de gens comme moi ignorent un peu ce qu'est cette maladie. Et surtout, nous allons parler d'un médicament qui s'appelle le Vimizim, qui atténue les symptômes, qui freine l'évolution de la maladie de Morquio, mais qui pour l'instant n'est pas remboursé par le gouvernement du Québec. C'est bien ça?
Tout à fait, oui.
Madame Boudreau, vous êtes la maman de deux enfants qui vivent avec cette maladie-là. Vous la connaissez bien. Qu'est-ce que la maladie de Morquio, Madame Boudreau?
Oui, depuis, en fait, les garçons, j'ai trois garçons, mais j'en ai deux qui sont atteints, donc un de 25 ans et un de 23 ans.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est cette maladie?
Oui. Qui attaque tout le système. Qu'on parle des oreilles jusqu'au bout des orteils, en passant par le cœur, les poumons, la respiration, la trachée, tout est affecté. Le foie, tout est affecté. Qu'est-ce que ça fait, cette maladie-là? C'est aussi une des maladies qui occasionne le nanisme. Donc, ce sont des personnes de petite taille. Mm-hmm. Ce sont des personnes qui vivent avec de la déformation osseuse.
Oh, mon Dieu.
Donc, qui doivent avoir beaucoup d'opérations pour, en fait... Dès le jeune âge, moi, le premier venait juste d'avoir 2 ans quand il a eu sa première chirurgie. Et depuis, à deux, ils sont au compte de 26 chirurgies.
Oh mon Dieu, bon.
Donc, oui. c'est quelque chose.
Oui, oui.
Et puis, ce que ça fait, ça l'affecte tout sauf le mental. Donc, ce sont des personnes qui sont d'intelligence normale, qui voient dans l'état où ils sont, donc ils sont très conscients de ce qu'ils ont. Ce que ça fait au niveau, c'est ça, c'est que les os sont déformés. Donc, les os, il y a une cumulation d'enzymes dans leur système qui occasionne des dommages. Et chaque personne est affectée différemment. C'est pas parce qu'on est morquio qu'on est tous pareils.
Okay.
Donc, c'est vraiment chacune des personnes qui sont affectées différemment.
Est-ce qu'on considère que c'est une maladie rare?
C'est tout à fait une maladie rare. Okay. Au Québec, il y a 41 personnes de répertoriées. À travers le monde, il y en a à peu près 200. Donc, c'est vraiment une maladie rare.
Alors,
mais au Canada, c'est au Québec qu'il y en a le plus.
Bon. Et au Québec, donc, on ne rembourse pas ce médicament qui s'appelle le Vimizim. C'est comme ça que vous le prononcez?
Tout à fait. Le vimizim est un médicament qui a été sous effet clinique, en essai clinique, depuis bientôt 5 ans. Et
il est disponible
depuis juillet 2014. Santé Canada a approuvé l'efficacité du vimizim. Et l'INES,
oui,
qui est l'Institut national pour la santé, sécurité et santé publique,
oui,
désapprouve. En fait, c'est qu'il désapprouve parce qu'il se base sur des critères qui sont des critères pour tous les médicaments, approuvés ou désapprouvés.
Ah, OK.
Donc,
pas seulement celui-ci.
Pas seulement les maladies rares. En fait, toutes les maladies rares sont pénalisées par les critères de l'INES. Parce que l'INES, le premier critère est la marche. On s'entend qu'une personne de petite taille...
qui souffre des os avec des déformations, voyons donc. Bon, ça
voilà.
On a tout compris.
Vous avez tout compris.
Mais, alors donc, ce médicament, il est approuvé par Santé Canada, si je vous comprends bien. Il est désapprouvé par l'INES. Est-ce qu'il est remboursé dans les autres provinces?
Ben, c'est ça. Bientôt, la seule province qui n'aura pas le droit au vimizim, ça va être le Québec. Parce que, par le biais de la recommandation du programme commun d'évaluation des médicaments de l'Agence canadienne et des technologies de la santé, le reste du Canada va avoir droit au vimizim et à être remboursé par le vimizim.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, pardon.
Présentement au Québec, excusez-moi.
Oui, je vous en prie, Mme Boudreau.
Présentement au Québec, c'est les patients qui veulent le vimizim font soit affaire avec leur assurance,
oui,
qui rembourse le médicament.
Et c'est un médicament très cher, j'imagine, évidemment.
Bien, quand on parle de maladies rares, c'est toujours des médicaments très chers.
Bien sûr.
Donc, soit qu'ils remboursent par leur assurance ou ils font une demande de patient d'exception. Et à ce moment-là, quand on est accepté, parce qu'il y en a qui ont fait des demandes de patient d'exception et ils ont été refusés.
Ah, en effet.
Donc, quand ils sont acceptés comme patient d'exception, là, ils remboursent le médicament, sauf qu'à chaque 6 mois, il faut refaire une demande de patient d'exception. Et on a toujours l'épée Damoclès au-dessus de la
bien
tête,
sûr,
à savoir est-ce que le gouvernement va
accepter
continuer
pas, bien
et
sûr
accepter de me traiter comme patient d'exception ou du jour au lendemain, ils vont me refuser. Si je vais directement avec mes 2 enfants, j'en ai un qui est accepté par l'assurance, puis j'en ai un qui est traité comme patient d'exception.
Bon.
Et les deux, l'avantage extraordinaire du vimizim qu'ils vivent depuis avril 2016 est qu'ils ont moins de difficultés à respirer.
Oh mon Dieu, c'est quand même la base, quoi.
Donc, ils devaient être en flexion arrière parce que je vous disais que ça endommage la trachée, l'œsophage, donc il devait être constamment en traction arrière pour chercher l'air et respirer. Maintenant, ils sont capables d'avoir la tête droite et de bien respirer. Donc, c'est juste majeur, la respiration.
L'épée
de Damoclès est au-dessus de notre tête.
Madame Boudreau, l'heure tourne et ça m'embête d'avoir à vous dire ça, mais malheureusement, c'est le cas. Et par contre, je souhaiterais pouvoir vous aider. Quand je dis « je », ce sont tous les auditeurs de Canal M. Il y a une campagne en cours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir? Il y a un site Internet. Est-ce qu'on peut juste aller dessus pour aller voir ça et voir ce qu'on peut faire?
Tout à fait. On a créé une communauté de Morchio, la communauté de Morchio du Québec. Et celle-ci a été créée justement pour sensibiliser la population, pour aider les personnes atteintes de cette maladie-là. Donc, vous pouvez aller sur le site morchioquebec.org. morchioquebec.org. O-R-G. Et sur le site, vous avez il y a plein d'entrevues, il y a des témoignages, vous avez à propos aussi, et vous pouvez également envoyer une lettre au ministre pour nous appuyer dans cette démarche-là, parce qu'on est peu nombreux.
D'accord. Bien sûr, Madame Boudreau.
Bien voilà.
Bon. Eh bien, écoutez, nous sommes contents d'avoir pu vous laisser cet espace pour vous exprimer sur les ondes de Canal M. Et on va vous souhaiter bonne chance et on va tout faire pour que cette campagne puisse gonfler un peu, quoi.
Au nom de toutes les personnes atteintes du morchio. Je vous remercie sincèrement.
Mais de rien, madame. Et puis, bon courage et bonjour à vos garçons.
Parfait, merci.
Au revoir.
Tu fais le message. Merci.
Au revoir. Par actualité internationale, à la fin du débat TV de l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron consacre sa carte blanche, 2 minutes sur un sujet de son choix, aux personnes handicapées. Il dit vouloir faire du handicap l'une des priorités de son quinquennat. Emmanuel Macron déclare ne plus vouloir de personnes vivant en situation de handicap qui soient sans solution. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi ce thème? Interrogé par handicap.fr, Marianne Monchamp, ex-secrétaire d'État en charge du handicap, qui a rallié en mars 2017 l'équipe de campagne En Marche, explique que le handicap est un axe politique qui est dans la cohérence de son programme, un sujet sur lequel M. Macron ne cesse de réfléchir, la vision d'une société qui se réconcilie avec elle-même avec une dimension très forte de fraternité. Tout au long de cette campagne, on parle ici bien sûr de la campagne présidentielle en France, les personnes concernées, donc les personnes du milieu du handicap ont regretté que leur situation n'ait été que trop rarement évoquée dans les débats télévisés. Ce point d'orgue des prises de parole devant 15 millions de spectateurs saura-t-il les rassurer ou les satisfaire? Première à réagir officiellement, la FNAT, l'Association des accidentés de la vie, dit avoir accueilli avec intérêt et satisfaction les déclarations du candidat Emmanuel Macron. Et puis l'INCa, et Canal M d'ailleurs, vous invite à son salon Technovision Plus, le plus grand salon dédié aux technologies adaptées pour les personnes vivant avec une perte de vision partielle ou totale. Et c'est un événement incontournable sur la santé visuelle. Nous vous avons réservé une belle brochette d'exposants et de conférences pour être au fait des plus récentes technologies disponibles sur le marché et connaître les produits et services qui permettent de demeurer autonome malgré la perte de vision. Ça a lieu demain, le vendredi 5 mai 2017 à l'hôtel Sainte-Manne à 2 pas du métro Longueuil au 999 rue de Sérigny à Longueuil. C'est de 9h30 à 19h30. Il y aura entre autres Ami Télé, l'Association des optométristes du Québec, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, le CAEB donc, point par point, l'INCa bien sûr, et Vues et Voix sera là et je serai d'ailleurs présente moi à ce salon et au kiosque de Canal M et de Vues et Voix. Alors je serai très très heureuse de faire votre connaissance si vous vous présentez. L'entrée est gratuite pour les clients d'INCa et leurs accompagnateurs. C'est 8$ pour le grand public, 5$ pour les étudiants et les personnes de 55 ans et plus. Alors c'est demain à Longueuil, alors en espérant vous y voir. Je vous souhaite une belle journée. Merci à toute mon équipe et je vous retrouve lundi prochain pour les paractualités à 11h30.